Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Rem publicam querites, vitamque omnium vestrum, bona fortunas conjuges.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici 10 ou 20 ans, on aurait volontiers affirmé de façon péremptoire que dans nos sociétés contemporaines, la communication entre les individus et les groupes était vouée à voir les échanges oraux prendre définitivement l'avantage par rapport à l'écrit. C'était l'effet, croyait-on, du triomphe du téléphone, de la radio et même de la télévision. Du coup, les historiens du politique déploraient que les pouvoirs de décision majeurs laissent de moins en moins de traces, la cristallisation s'en faisant pour une large part oralement. Les historiens de la littérature se désolaient de constater que s'étiolaient les correspondances privées, sources essentielles pour eux et souvent œuvres en soi. Les historiens de la presse, pour leur part, prenaient acte, généralement sans plaisir, du déclin des journaux imprimés et de leur influence sur les comportements civiques et culturels au profit de l'audiovisuel. Mais voici qu'en 10 ans, l'émergence de l'Internet a changé la perspective du tout au tout, en restituant à l'écrit une place essentielle. Les projets de bibliothèques numériques redonnent aux livres l'espoir d'une diffusion universelle sur la toile, les quotidiens et les magazines y trouvent un public nouveau. Les courriels, les blogs, les forums jouent désormais, sous forme écrite, un rôle capital dans la circulation des informations avérées, mais aussi des légendes, des rumeurs, des racontars, des calomnies. Pour réfléchir à ce va-et-vient et pour en éclairer les ressorts, rien de mieux qu'un retour loin en arrière jusqu'à la Rome antique. Guy Achard, professeur émérite à l'Université de Lyon, qui est mon invité ce matin, a montré dans ses travaux sur la communication à Rome et dans l'Empire romain que, dans la vie politique et culturelle, la dialectique entre l'oral et l'écrit y a connu, bien avant le câble téléphonique, le tube cathodique et l'écran des ordinateurs, des évolutions surprenantes et complexes.
Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre, qui veulent vivre et vivre libre. Salut à celles et ceux qu'on bâillonne, qu'on persécute ou qu'on torture et qui veulent vivre et vivre libre. Salut aux séquestrés, aux disparus et aux assassinés qui voulaient seulement vivre et vivre libre. Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur sang pour survivre, aux Indiens pourchassés dans leurs forêts, aux travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans armes, qui veulent simplement vivre et vivre libre. À tous, la France. À tous, la France dit courage, la liberté vaincra.
Oui, Achard, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi de commencer notre conversation à partir de cette citation de François Mitterrand. Il s'exprimait le 20 octobre 1981, à Mexico, devant le Monument aux Morts. C'était le moment où il est allé là-bas pour la fameuse conférence de Cancun. C'est un discours où il porte le salut des fils de la Révolution française aux fils de la Révolution mexicaine. On a le sentiment à l'écouter que Mitterrand n'a pas été privé de quelque éducation dans le domaine de la rhétorique.
Oh oui, c'est sûr. J'ai été surtout sensible personnellement en entendant ce discours au fait que, d'une part, la parole de François Mitterrand reprend l'autorité, disons, qui était celle des Romains de l'époque du début de la République, mais qu'en même temps, il était très attentif à mettre en œuvre les moyens de la rhétorique qui, elle, s'est introduite à Rome plus tard, à la fin de la République, à partir à peu près du IIIe siècle avant notre ère.
Enfin, les rhéteurs sont arrivés, on le sait, déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Rome. C'était un événement considérable, ils venaient de Grèce.
Et c'était un événement qui a d'ailleurs surpris beaucoup de Romains.
Et choqué peut-être.
Oui, choqué. Choqué parce qu'on était habitué à une parole franche, sincère, spontanée. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces Grecs qui nous apportent des règles subtiles? La parole romaine, la parole antique, était une parole pleine d'autorité, pleine de fermeté. C'était un peu une parole d'ailleurs divine, finalement. Les magistrats exerçaient des prêtrises. Donc souvent, ils se faisaient le truchement de la divinité. Et cette parole avait par elle-même déjà beaucoup de force. Elle n'avait apparemment pas besoin, donc, de la rhétorique.
Mais simplicité, mais concision. Mais...
Concision, oui, sobriété. Et c'était d'ailleurs d'autant plus utile pour les Romains de s'exprimer de cette manière franche, spontanée, vigoureuse, que la société reposait sur la fidesse, hein, reposait sur la bonne foi. Pour des échanges commerciaux, pour des affaires, il était donc nécessaire que la parole fût crue.
Simple, top là.
Il n'avait donc pas, à ce moment-là, besoin d'artifices, de recettes de la rhétorique.
D'ailleurs, on relève que la méfiance de beaucoup de dirigeants romains ou de vieux romains a été longue à se dissiper à l'égard de la rhétorique. Encore en 92, les censeurs Crassus et Domitius Aenobarbus ferment les écoles de rhétorique qui enseignent cet art en latin.
Il faudrait réfléchir évidemment aux motifs qui ont permis à la rhétorique de prendre toute sa place à Rome.
Ah oui, on y réfléchit.
Mais vous venez d'évoquer un point qui me paraît extrêmement important. Les Romains, au début, les Romains d'un certain rang, font en sorte qu'il y ait une séparation entre le monde de la rhétorique, du verbe, tel qu'il était donc enseigné par les Grecs, et leur propre pratique de la parole. Très curieusement, ils établissaient une sorte de cloisonnement entre les deux. C'était donc les maîtres grecs qui enseignaient la rhétorique, et puis les personnages romains d'un certain rang, eux, la mettaient en œuvre concrètement. Il y avait donc cette séparation de la langue, en quelque
la
sorte.
La Grèce pouvait apparaître comme porteuse de décadence à cet égard, par excès de raffinement.
Certainement.
Et puis on voit, alors c'est intéressant quand on pense au spin doctor d'aujourd'hui, aux conseillers en communication, on voit que pour certains des maîtres en rhétorique, la communication devenait une sorte d'art autonome qu'on pouvait plaquer sur des propos différents, qui pouvaient servir de façon très, très aléatoire des convictions même opposées. Et cela, évidemment, crée beaucoup de méfiance chez les Romains.
Ils se méfient donc beaucoup de cet art. Le développement est même peut-être un petit peu surprenant. Certes, il met quelque temps à se faire. On peut dire que la rhétorique va mettre à peu près une cinquantaine d'années à se répandre, mais après, l'extension va être tout à fait considérable.
Alors il faut que nous fassions très vite sa place à celui qui apparaît comme l'incarnation même de la rhétorique et de l'éloquence romaine, je veux dire Cicéron. Et avant de faire entendre un texte de lui, je voudrais citer son propos sur l'orateur dans le fameux De Oratore. Il écrit « Rien ne me semble plus beau que de pouvoir, par la parole, retenir l'attention des hommes assemblés, séduire les intelligences, entraîner les volontés à son gré en tous sens. Qu'y a-t-il, ajoute Cicéron, qu'y a-t-il de plus admirable que de voir, en face d'une immense multitude, un homme se dresser, seul et armé de cette faculté que chacun a cependant reçue de la nature, en user comme il est seul alors, ou presque seul, en mesure de le faire ? Quelle puissance que celle qui dompte les passions du peuple, qui ébranle la fermeté du Sénat, merveilleux effet de la voix d'un seul homme. » Fin de citation.
Cicéron a, grâce à la rhétorique, fait d'abord une carrière politique tout à fait remarquable, parce qu'il appartient au deuxième ordre, si l'on veut, de la société romaine.
L'ordre équestre.
Et il va s'élever jusqu'au tout premier rang, cela donc grâce à la parole. Il peut penser, influencer l'histoire de Rome, il peut penser jouer le tout premier rôle. Il y aura là peut-être quelque illusion, hein, puisque finalement le pouvoir reviendra au chef d'armée. Mais il est sûr que même des généraux comme César et Pompée seront toujours sensibles aux propos de Cicéron. Et la volonté d'ailleurs de ces deux hommes se manifestera très clairement en 56, aux accords de Luc. Ils demanderont à Cicéron de ne jamais parler contre eux.
Eh bien, écoutons-le, ce redoutable orateur qu'on ne veut pas voir prendre la parole contre soi. Écoutons-le, c'est un extrait des Philippiques, lu par Paul-Émile Deybert de la Comédie française.
Vous n'avez pas, citoyens, à combattre l'un de ces ennemis avec lesquels on peut concevoir des conditions de paix. Ce n'est pas votre servitude, comme autrefois, mais désormais, dans sa colère, votre sang qu'il veut. Aucun jeu ne lui paraît plus agréable que d'égorger, de massacrer, de faire tuer devant ses yeux les citoyens. Non, Romain, vous n'avez pas affaire à un homme scélérat et impie, mais à un monstre sauvage et affreux qu'il faut écraser dans le piège où il est tombé. Car s'il en sort, il n'y aura de défense contre aucune cruauté, aucun supplice. Mais nous le tenons. Nous le pressons, nous l'accusons, maintenant avec les troupes que nous avons, bientôt avec celles que dans peu de jours les nouveaux consuls lèveront. Attachez-vous à cette cause, citoyens, comme vous le faites aujourd'hui. Jamais nous n'avons été plus unanimes. Jamais vous ne vous êtes trouvés dans une alliance plus étroite avec le Sénat. Cela n'est pas étonnant. Il s'agit de savoir non pas dans quelles conditions nous vivrons, mais si nous allons vivre ou mourir dans les supplices et l'ignominie. Certes, la nature a imposé la mort à tous. Mais dans la mort, la cruauté et le déshonneur sont toujours rejetés par la vertu qui est propre à la race et aux enfants de Rome. Antoine se glorifie souvent d'être semblable à Catilina. Il lui est égal par ses crimes, inférieur par son industrie. Catilina, alors qu'il n'avait aucune armée, la suscita d'un souffle. Notre homme a perdu l'armée qu'il avait reçue. Donc, comme vous avez brisé Catilina par ma diligence, l'autorité du Sénat, votre élan et votre vertu. De même, vous apprendrez bientôt que par votre concorde avec le Sénat, qui jamais ne fut si grande, et par le bonheur et la vertu de vos armées et de vos chefs, la bande abominable d'Antoine a été écrasée.
Alors Guy Achard, j'ai fait entendre au milieu de notre générique, suivant notre coutume, j'ai fait placer une petite pastille qui était une lecture des Catilinaires de Cicéron, mais en latin et avec un accent anglais, j'ai préféré vous faire entendre un texte traduit. Rappelez-nous dans quelles circonstances ce discours est prononcé par Cicéron.
Alors c'est donc après l'assassinat de César. Les conjurés n'avaient pas prévu grand-chose.
Comme surpris Marc-Antoine, par leur propre succès.
Et Marc-Antoine se pose en héritier de César grâce à son éloquence et grâce à une extraordinaire mise en scène lors des funérailles de César. Il prend dans Rome une place tout à fait considérable, et Cicéron prend la tête de ce qu'on pourrait appeler les républicains, les anti-césariens. C'est à cette occasion donc qu'il prononce les discours philippiques.
Alors comment analysez-vous la construction ? Il faudrait que nous parlions plus concrètement de ce que cette rhétorique implique, appelle, propose comme méthode, comme procédé.
La rhétorique, évidemment, a assez mauvaise réputation, il faut bien le dire. Elle semble une somme dogmatique de préceptes. Les tâches de l'orateur doit savoir trouver les arguments, doit savoir les organiser, doit savoir retenir son texte, etc. Il y a un plan très précis de chaque discours avec exorde, narration, annonce du plan, argumentation, etc.
Confirmation, réfutation et conclusion. Tout voilà. Ça est très, très, très organisé, presque imposé par la tradition rhétorique.
Oui. Oui, mais...
Mais ça marche.
Oui, ça marche, mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ça, c'est, si vous voulez, dans un livre complet, dans un manuel complet de rhétorique. Mais les circonstances peuvent très bien faire que l'orateur passe sur une ou deux parties de son développement. S'il n'est pas nécessaire de narrer les événements, eh bien, on ne les narrera pas. Il y a beaucoup de souplesse, en réalité, dans la rhétorique.
Avec la revanche de l'écrit qui fait que quand on publie le discours, oui. En revanche, on le complète souvent.
Là, ça pose des questions assez délicates parce que les Romains ont bonne mémoire. Ils y ont été justement habitués par une longue pratique de la parole. La parole n'a pas, en général, le support de l'écrit. Donc, il faut parvenir à mémoriser. Les Romains ayant donc une bonne mémoire, il est sûr que la rédaction d'un discours ne doit pas être trop différente du discours qui est prononcé.
Donc ils rédigent d'abord par écrit, ils apprennent par cœur, ils récitent leur propre texte, c'était ça. C'est tout à fait ce que faisait De Gaulle. La pratique, oui. De Gaulle avant lui, d'une certaine façon, Poincaré. Oui. Mais ce sont des exceptions dans, oui. Notre XXe,
oui.
Siècle.
Mais les Romains avaient aussi quand même un art de l'improvisation très grand.
On sent parfois que dans des textes même, on sent la foule qui gronde, on sent la répétition pour s'y imposer, on sent presque l'interpellation à tel ou tel qui s'agite dans l'auditoire.
En lisant bien le texte de près, nous nous apercevons que Cicéron lui-même, dans son discours, a évoqué des réactions de l'auditoire. Et il y a un passage qui est tout à fait symptomatique à cet égard, qui se trouve dans une autre philippique. Cicéron est en train de parler d'Octave, l'autre héritier
futur Auguste
de César, celui qui va réussir. Cicéron dit « Laudo, je vous félicite ». Mais dans le texte même qui nous est parvenu aujourd'hui, nous lisons juste après « Laudo vos ». On s'est demandé souvent pourquoi cette répétition avait-elle une valeur rhétorique ? Non, mais tout simplement, c'est parce qu'au moment où Cicéron prononce le nom de César, eh bien, la foule acclame l'orateur et celui-ci est obligé de reprendre la parole.
Les professeurs de rhétorique, les rhéteurs, donnent un autre conseil aux futurs orateurs dans la vie publique. Il faut essayer de prévoir ce que sera la réponse de l'autre pour préparer soi-même,
ouais.
Sa riposte.
Tactique difficile. Parce qu'il est bien évident que l'autre va aussi réfléchir aux précautions de l'adversaire.
Ils apprennent toujours par cœur, donc ils pouvaient éventuellement polir des phrases représentatives. On parle beaucoup aujourd'hui des petites phrases qu'imposerait la télévision, souvent sur le ton de la déploration, pour regretter que la réflexion politique soit rabougrie, soit en quelque sorte privée de toute l'ampleur nécessaire à une intelligence développée. Mais en fait, il y avait déjà des petites phrases dans la Rome antique, un peu « Veni, vidi, vici » de César ou « Allez à Jacques Taest ».
Il y avait des petites phrases. Je dirais qu'il y avait beaucoup de petites phrases.
Oui.
Les modernes et les contemporains, en effet, préparent de petites phrases, en chasse de petites phrases. Mais je crois que dans les discours qui nous sont parvenus, en particulier ceux de Cicéron, il y a beaucoup de petites phrases. Chaque phrase est polie grâce aux armes de la rhétorique. Elle a ses assonances, elle a son rythme. Veni, vidi, vici, ça c'était sur une petite pancarte.
Je suis venu, j'ai vaincu,
oui,
dit César.
Qui accompagnait une victoire de César, un triomphe césarien.
Donc il y avait probablement réfléchi, il avait souhaité que ce mot fasse balle.
Une formulation telle que celle-ci pourrait très bien se trouver dans des manuels de rhétorique. C'est une illustration d'un rythme ternaire, ce rythme cher au rhéteur, nous le savons, avec donc aussi ses assonances. C'est un exemple.
Je donnerai une illustration sur la permanence de ce rythme ternaire avec une archive, un extrait d'un discours du général de Gaulle. Mais patience. Pour l'instant, c'est Edgar Faure que je vais vous faire écouter parce qu'il évoque l'évolution de la rhétorique aujourd'hui, enfin dans notre époque contemporaine, quand elle est amenée à passer du cercle des assemblées parlementaires, avec la spécificité propre de cette rhétorique, à un public plus large, et notamment grâce au micro, qui n'existait pas, je vous en fais la révélation, dans la Rome antique.
Monsieur le Président, vous avez le génie du verbe, vous avez la phrase facile, vous savez parler devant des foules. Est-ce que tout cela, ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des cours pour les hommes politiques?
Je ne sais pas. Personnellement, je n'en ai pas suivi. Mais tout peut s'apprendre, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison des capacités initiales, qui d'ailleurs peuvent être fortement modifiées par l'éducation, de l'expérience que l'on acquiert et de l'emploi qu'on en fait. D'autre part, bien sûr, je le reconnais, je suis peut-être plus orateur que d'autres, mais un homme qui serait moins doué que moi au point de vue oratoire pourrait réussir tout aussi bien. L'expression ne dépend pas uniquement du brillant, par exemple. De sorte que certains peuvent se laisser aller à leur nature, si elle est exubérante, si elle est plus éloquente. D'autres seront plus gênés, peut-être souvent ils liront des textes, mais cela n'a pas d'importance. Et vous pouvez trouver un homme qui, avec un texte lu, ou même dit d'une façon moins adroite, peut porter beaucoup. Surtout maintenant. Parce que maintenant, ce qui compte beaucoup, c'est le fond. Ce que veut l'opinion, c'est la vérité des solutions. En réalité, l'art oratoire, les techniques d'expression sont importantes dans un milieu clos. Par exemple, devant un tribunal, dans un prétoire, dans la présence physique, naturellement, cela joue. Vous ne ferez pas un très bon avocat d'assises, métier qui n'était pas le mien, j'ai jamais été avocat d'assises, sans les capacités nécessaires. Vous ne ferez pas un Florio ou un Tixier-Vignancourt avec quelqu'un qui ne s'exprimera pas très bien. De même, dans le temps où tout dépendait des mouvements de séance, par exemple à la chambre, ou une intervention à la tribune, ou même du banc pouvait porter énormément, là, il y avait, si je puis dire, beaucoup plus d'efficacité à ce qu'on appelle l'éloquence. Mais actuellement, le public est à l'écoute, par la radio, par la télévision, et surtout par le fait. Donc, il recherche ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui ne ferait que parler, qui n'agirait pas, ne serait peut-être pas très admis, très considéré.
Guy Achard, ce propos ramène à Rome. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution entre le temps où les orateurs s'exprimaient principalement devant le Sénat, devant les assemblées politiques, et puis ensuite une évolution vers des foules plus grandes, avant le micro? Comment ça se passait concrètement? On pouvait entendre que des premiers rangs.
Les Romains cultivaient beaucoup leur voix. Dans les préceptes de la rhétorique que j'indiquais tout à l'heure, j'avais oublié une chose très très importante. C'était la formation de la voix, de son volume, de ses nuances, de sa puissance. Et Cicéron nous dit par exemple qu'il parlait tellement fort qu'il avait l'impression quelquefois de défaillir. Cela était nécessaire aux Romains, parce que il ne faut pas imaginer que le Sénat était une mince assemblée. À partir de Sylla, il y a déjà plusieurs centaines de sénateurs. Sous César, il y en aura près d'un millier. Cicéron parle devant des foules immenses. Les philippiques adressées au peuple, par exemple, sont probablement prononcées devant quelques 10 000 à 15 000 personnes.
Mais ils pouvaient entendre? On avait des porte-voix? On n'avait pas inventé de porte-voix?
Non, je pense qu'ils étaient entraînés à s'exprimer devant des populations aussi vastes. Il faut dire aussi que le forum était clos assez largement. Il y avait le fond là, du tabularium, là,
l'acoustique
au pied
était
du Capitole. Oui, certainement. Il n'y a pas une si grande différence, je crois, entre l'éloquence pratiquée devant le Sénat ou devant les, même devant les juges d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait toujours des gens qui étaient intéressés par les procès. Donc il n'y avait pas que les 70-80 juges à la fin de la République. Il y avait ce qu'on appelait la corona, mais en fait c'était une vaste couronne. Hein. En fin de compte, il n'y a pas eu sans doute une si grande évolution, mais l'éloquence, et là il y a une étonnante rencontre évidemment avec le propos que nous venons d'entendre, l'éloquence, comme le dira Quintilien un peu plus tard, l'éloquence se nourrit du nombre.
10 000 personnes, nous dites-vous, oui c'est considérable, mais par rapport à... Au tout de l'influence romaine, par rapport à une république, puis un empire qui s'étend dans à peu près vers toutes les terres connues, ou quasiment. Comment circule cette information? Et c'est là qu'on retrouve la dialectique de l'oral et de l'écrit. Certains propos, certaines nouvelles sont portées de façon orale, mais d'autres, beaucoup et de plus en plus, par l'écrit. Comment se passe cette mutation qui nous concerne très directement aujourd'hui?
Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est qu'il y a à Rome les citoyens qui comptent, et puis il y a aussi les autres. Les discours que nous venons d'évoquer, ils sont écoutés, en règle générale, par les citoyens qui comptent. Même un discours au peuple, parce que, ce qui est souvent oublié, les sénateurs, bien entendu, les chevaliers, sont très souvent présents. Mais il y a quand même, évidemment, dans la République finissante et dans l'Empire, une nécessité de faire connaître ce qui a été dit. Alors, il faut aussi savoir que ce que vous appelleriez les petites phrases, on va dire les choses vraiment importantes, des discours,
une pensée, un propos, une ambition,
sont transmises. Quand Cicéron, par exemple, se permet d'élever un petit peu le ton à l'égard de César, immédiatement un émissaire va raconter en Gaule ce qu'a dit Cicéron.
Avec un résumé de ses propos.
Oui. Alors d'autre part, il y a évidemment quand même la publication, et c'est là alors qu'intervient l'écrit. Bon, c'est une publication qui se fait sous des formes assez différentes de celles de notre époque.
Les scribes prennent les propos à la volée.
Oui, il y a différentes méthodes. On peut mettre 4 ou 5 scribes auxquels on confiera en effet cette tâche. Et le premier scribe prendra la phrase 1 et la phrase 6, le deuxième la phrase 2 et la phrase 7, etc. Bon, ça, c'est une première méthode. Et puis alors, il y a une véritable sténographie. Hein. Elle est assez largement originaire de Grèce. Rendons aux Grecs ce qu'il faut leur rendre. Mais les Romains l'ont systématisée, en particulier la franchie de Cicéron, Tyron. Alors en général, ils notaient simplement le corps du mot, tout ce qui était désinence ou préfixe, suffixe, etc., était indiqué par un signe particulier.
Donc la transcription par écrit survenait assez vite, comme aujourd'hui la transcription à l'Assemblée nationale.
Oui.
Ça circulait à partir de là, c'était recopié par des esclaves copieurs.
Alors, c'était recopié, à moins évidemment que l'orateur lui-même n'ait donné son texte plus ou moins modifié, hein, suivant les faits que l'on pouvait produire sur le public, en tenant compte de la très bonne mémoire des Romains que j'évoquais tout à l'heure. Alors l'orateur peut évidemment donner à quelques, on va dire, éditeurs, bien que le mot soit un peu excessif, son texte qui va être donc en général copié à quelques exemplaires qui seront envoyés à des amis dans les provinces, qui eux-mêmes feront un petit peu le même travail que l'éditeur romain. On va donc avoir
qu'ils recopieront à leur tour.
C'est ça. Et une sorte de ramification, finalement, de la parole par l'intermédiaire de l'écrit.
Et alors, à quelle vitesse? Parce que Comment circulaient les informations? Parce qu'il n'y a pas que les discours, il y a aussi les instructions, les ordres.
Oui.
On affiche assez tôt, ça c'est l'écrit, on affiche assez tôt les décisions, les actas. Acta diurna, que chacun peut consulter.
Oui.
Comme autrefois, sous la Troisième République, on votait, vous savez, dans le cas des discours qui avaient particulièrement touché les élus, on votait l'affichage. C'est-à-dire qu'on affichait les discours sur les murs de toutes les mairies des communes de France. C'est une façon de transposer directement, du côté de l'écrit, des propos tenus oralement.
Oui. Sous l'Empire, le prince prenait lui-même cette décision.
C'est la même chose.
D'afficher ses discours. Alors, pour en revenir à la vitesse, eh bien, nous avons des indications. Nous savons que vers, disons, 300 avant notre ère, le déplacement moyen était de l'ordre de 50 à 60 kilomètres. On va parler de kilomètres par jour. Alors que
merci
à
de
la
transposer.
Fin de la République, on était à 150.
Et c'était les textes écrits que les coursiers portaient.
Oui, c'était des textes écrits. Ça pouvait être aussi des messages, mais ça alors à une époque antérieure, quand la parole dominait. Mais à la fin de la République, ce sont des messages qui sont transmis, dûment scellés, pour éviter que le messager ne brisât le cachet. Hein. Sous l'Empire, évidemment, il en est de même.
Et du même coup, les voyageurs, les coursiers, les affranchis ou les esclaves qui portaient ces messages portaient aussi, bien sûr, des rumeurs. Puisqu'ils ne regardaient pas ils ne pouvaient pas ouvrir les textes écrits. Ils apportaient des bruits de toutes sortes.
Là, on voit très bien comment fonctionne l'oral et l'écrit. Et on peut même bien préciser le moment où l'écrit va prendre plus de place pour authentifier, pour garantir, n'est-ce pas ? Vers les années 200 avant notre ère. Vous avez par exemple une bataille importante qui s'est déroulée, comme la bataille du Métaure, où Hasdrubal a été battu. Eh bien, d'abord, c'est un messager qui vient raconter la chose aux Romains. Le peuple de Rome commence évidemment à être rempli d'une vive satisfaction.
Comme le coureur de marathon, à peu près deux siècles auparavant.
Oui. Alors que la nouvelle n'est pas encore, on le sent, assurée pour les Romains. Et puis arrive un messager qui, lui, a un texte écrit. Et là, alors, la joie commence à se manifester. Mais
certitude.
On attend davantage.
Certitude.
Voilà, on attend davantage. On attend la lettre des consuls, dûment scellée. Et alors là, quand elle est lue, c'est évidemment l'explosion d'allégresse.
Alors, c'est un des signes, des symptômes du progrès de l'écrit par rapport à l'oral dans cette civilisation, que le développement des correspondances privées ou officielles. Je vais vous en faire entendre à titre d'échantillon, en faire entendre une de ces lettres. Elle est adressée, peut-être ce document est-il imaginé après coup. En tout cas, voilà une lettre de Salluste à Jules César, adressée au moment où le sort balance.
Si la patrie, si tes ancêtres pouvaient parler, voici ce qu'ils te diraient. Ô César, nous les plus vaillants des hommes, nous t'avons fait naître dans la plus célèbre des cités pour y être notre gloire, notre rempart et la terreur de nos ennemis. Ce que nous avons acquis au prix d'un si dur labeur et de tant de périls, nous te l'avons transmis en te donnant le jour, une patrie, la plus puissante du monde, dans cette patrie, la plus illustre des familles. En reconnaissance de si magnifiques présents, nous ne te demandons aucune action déshonorante ou vile, mais le rétablissement de notre liberté détruite. En effet, si tu parviens à préserver de la ruine la plus célèbre et la puissante de toutes les villes, qui donc, sur toute l'étendue de la terre, oserait se croire plus grand, plus glorieux que toi ? Car peut-on douter que si, par quelque fatalité, l'Empire romain succombait, le monde entier se trouverait plongé dans la désolation, dans les guerres et dans les massacres. Mais si la noble passion de témoigner ta gratitude à tes ancêtres et à ta patrie t'inspire dans les jours qui viennent, ta gloire de sauveur de la République surpassera celle de tous les autres hommes, et tu seras le seul dont la mort ajouterait encore à l'éclat de la vie.
C'était donc une lettre de Salluste à César qui était lue en 1972, en juillet 72, à Vaison-la-Romaine par Michel de Ré. Vous aviez l'air de penser que ce n'était pas un document authentique.
Oui, bon, je ne suis pas le seul à le penser, évidemment. C'est-à-dire.
Mais c'est vous qui êtes là.
La dernière phrase est trop belle.
Autrement dit, vous pensez que le texte a été écrit quand on savait la mort de César, précisément, et ses circonstances.
Quoi qu'il en soit, c'est une lettre qui appartient à un genre tout de même bien, bien particulier, qui va se développer surtout au début de l'Empire, c'est-à-dire une lettre de conseil.
D'exhortation.
De direction, d'exhortation. Très habile, parce qu'elle est mêlée d'éloges, évidemment, dithyrambiques.
Soyez fidèle à l'idée que nous faisons de vous, qui est très élogieux. C'est ça, en gros, le thème.
Voilà. Cela donc, oui, se développera au début de l'Empire, mais en fait, ce n'est pas pour cela que la correspondance naîtra et se développera. C'est surtout pour informer.
Il y a à la fois des liens politiques et des liens familiaux. On a plus de 1000 lettres de Cicéron, et vous nous dites que ces Romains écrivaient une quantité de lettres, en moyenne une dizaine par jour.
Ils les écrivaient eux-mêmes, ou ils avaient des secrétaires auxquels ils dictaient. Mais
Et l'oral à nouveau se transformant en écrit.
Exactement.
Avec probablement une coloration différente du style quand on dicte.
On parle de littérature romaine, il ne faut jamais oublier que c'est en même temps un témoignage de l'oralité romaine. Celui qui écrit, si j'ose dire, la lettre, parce que lui-même, lorsqu'il l'écrit, l'a dit probablement à haute voix. Mais d'autre part, celui qui la reçoit la lit souvent
à haute voix.
Aussi, à haute voix. Et donc les effets de style, si vous voulez, de l'émetteur sont bel et bien traduits par celui qui reçoit la lettre. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de, répondant à quelqu'un, pour peut-être par un courriel, je ne sais pas, de lui dire, pour répondre à ce que tu m'as dit, et non pas à ce que tu m'as écrit.
Mais le texte répondant à l'oral, à l'oralité.
Voilà,
on pourrait également faire allusion aux revues de presse à la radio, où en quelque sorte on lit oralement des textes écrits. Mais ça nous ramène à cette dialectique de l'oral et de l'écrit aujourd'hui. Au fond, vous pensez qu'il y a beaucoup de points communs à cet égard avec notre temps, ou que ce sont les différences qui vous frappent dans ce rapport entre ce qui se dit, ce qui se parle et ce qui se fige par écrit sur les tablettes ou sur les papyrus?
Il y a un jeu entre la parole et l'écriture. Il y a une période où on a l'impression que c'est la parole qui domine, une autre, et c'est assez vrai au début de l'histoire de Rome, une autre où c'est l'écriture, mais la parole reprend par instant de sa force. Je crois que c'est une des, quand même, des leçons, on peut dire, de l'étude de l'Antiquité. Nous voyons ainsi ces deux formes d'expression se modifier, avoir une place variable suivant l'époque. Ça ne veut pas dire donc, comme vous l'indiquiez vous-même en introduction, la cause de l'écrit, par exemple, soit perdue.
L'écrit s'affirme, en tout cas, vous le montrez, à l'époque de l'Empire, ce système autoritaire qui fait servir au profit du maître, au profit de l'empereur, tout ce qui peut s'écrire. Et en même temps, comme toujours dans ce cas-là, on sent que perdure, que se développent toutes sortes de rumeurs, de paroles, d'informations plus ou moins controuvées, ou parfois vraies, qui circulent d'autant plus vite et aisément que précisément on veut les interdire.
Le prince établit sa primauté dans le domaine de la parole et dans le domaine de l'écriture. Alors, il est évidemment assez malaisé pour les personnages d'un certain rang d'essayer de contrebattre cette primauté. Mais il y a, en effet, il y a les rumeurs, qui sont donc quelquefois beaucoup plus importantes dans ce que j'oserais appeler la classe moyenne romaine ou chez le peuple.
Il y a même des procédés d'intoxication par écrit pour essayer de faire servir les rumeurs au profit au profit d'un politique. Vous citez le cas de Tibère, l'empereur Tibère, lorsqu'il veut se débarrasser de ces gens qui envoient une foule de lettres contradictoires au Sénat, qui tantôt louent, tantôt blâment celui qui était son favori juste auparavant, tantôt honorent, tantôt rabaissent ses amis, si bien que le Sénat tombe dans le plus grand désarroi, et c'était le but.
Oui, oui, et Tibère était un maître en la matière.
Dans l'intoxication.
Un maître, c'est un maître.
La dialectique oui. de l'écrit et de l'oral pour lui.
Un maître, oui, un maître en fourberie, dont les Romains disaient à voix basse que lorsqu'il exprimait quelque chose, il y avait de grandes chances pour qu'on soit en droit de comprendre le contraire.
On fait servir aussi l'écrit à côté de l'oral à la calomnie, à laquelle nous connaissons ça encore avec les petits journaux. Nous l'avons beaucoup connu. Par exemple, quand Bibulus tente en 59 de déconsidérer César par des affichages, oui. en comptant qu'ensuite, naturellement, la rumeur courra, où il le qualifie de reine de Bithynie. C'est une allusion à ses relations prétendues avec Nicomède.
Là, d'ailleurs, on voit très bien comment s'oppose la politique, on va dire, du personnage qui a le plus d'influence à ce moment-là. Hein. En fait, César est... Bibulus sont consuls en même temps, la même année. Mais César, lui, a inventé le premier véritable journal romain. Dans quelle intention ? Évidemment, pour que les sénateurs ne se laissent pas aller à trop de critiques à son égard, comme César étant aimé du peuple, d'une bonne partie des chevaliers, et même d'une certaine partie de la classe sénatoriale, il est bien évident qu'il y a intérêt, en effet, à obliger les sénateurs à ne pas prononcer de propos vraiment publics. À ce moment-là, les acta senatus, les aurait rendus publics.
L'écrit affiché. Protège César
contre la
parole qui circule et qui pourrait s'en prendre à
ça. Alors que Bibulus est obligé d'utiliser des moyens moins officiels, des sortes de tracts, de pamphlets qui circulent sous la toge.
Le succès de l'écrit, et cela nous intéresse à l'inverse pour notre actualité, le succès de l'écrit n'empêche pas que sous l'Empire, l'oral prend sa revanche. Et pour introduire ce dernier moment de notre conversation, Guy Achard, je vais vous faire entendre une réflexion du général de Gaulle, figurez-vous, sur l'émergence de l'oral, c'est-à-dire de la radio, sous cette forme particulière que permet le micro. Après l'écrit de Gaulle, il était un homme dont le civisme avait été modelé par les lectures des journaux, bien sûr, la presse écrite. Et voilà qu'à partir de 1940, c'est la radio qui lui permet de porter son influence et de vivre son aventure. Or, il lui est revenu, en décembre 1963, d'inaugurer cette maison de la radio et de le faire dans les termes que voici.
Après la parole... Le dessin, la scène, l'écriture, l'imprimerie, la photo, le cinéma, voici que la radio à son tour s'est saisie du contact direct avec les intelligences, les sensibilités et les volontés par tout ce qu'elle projette de vivant et d'émouvant, et par la façon qui est la sienne, péremptoire et immédiate. Elle est, par excellence, le moyen d'information adapté à notre époque mécanisée, aggloméré et précipité. Mais comme ce qui est utile aux âmes ne l'est qu'en vertu d'une grande cause, et comme nous avons choisi la nôtre, il faut que la radio française, tout en captant sans parti pris et en répandant sans exclusive les courants de l'événement, de l'art, de la science et de la politique, concourt à la liberté, à la dignité et à la solidarité des hommes. cette responsabilité humaine est en même temps nationale par le fait que la radiodiffusion télévision française jaillit de notre esprit, s'exprime en notre langue, tient notre technique, évoque les gens et les choses de chez nous, elle assume un rôle unique de représentation.
J'ai choisi, Guéachard, un extrait de ce discours très fameux, notamment chez les historiens des médias. D'abord parce que vous parliez de la rhétorique ternaire. Voilà, chez De Gaulle, de magnifiques exemples. L'époque mécanisée, agglomérée et précipitée. Et puis, cette réflexion sur la rencontre entre ce que l'intelligence peut porter et ce que les passions peuvent aussi exprimer. Ce qu'il y a de vivant et d'émouvant, dit-il. Ce que la radio a de péremptoire et d'immédiat. Nous voilà au cœur de notre réflexion sur l'oral et l'écrit dans la Rome antique. Sauf que là, il y a une résurgence de l'oral aux dépens de l'écrit. C'est un peu le contraire de ce qui s'est passé au moment de l'Empire romain. Est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que ça vous rappelle cette période ?
Il y a tout de même sous l'Empire une permanence de l'oralité, ce qui ne nous étonne pas après tout ce que nous avons dit sur la force de la parole romaine en ses débuts, sur la force de la parole modifiée quelque peu par la rhétorique. La force de la parole perdure. Il y a une anecdote qui est assez significative, si je peux employer ce mot. Il s'agit de Sabinus, qui était un cousin de Domitien.
On est à quelle époque ?
Là, nous sommes sous l'Empire, nous sommes donc dans le troisième quart du premier siècle, si vous voulez.
Donc Domitien.
Sabinus, donc, était le cousin de Domitien. Et Sabinus avait été proclamé par erreur par le héros Imperator.
Héros H-E-R-A-U-T.
Et non pas seulement consul, ce qui était son rang. Eh bien, Domitien a fait mettre à mort Sabinus. Peut-être avait-il d'autres raisons, mais la raison qu'il a invoquée, c'était que, d'une certaine manière, le héros avait commis l'erreur de le nommer impérator et par là, lui donnait presque, par cette parole, le titre d'impérator.
Voilà un lapsus mortifère.
Ouais.
Ça confirme l'idée que la parole,
oui,
non pas seulement la parole privée, bien sûr, qui perdure toujours, mais que la parole proclamée a autant de poids dans cette,
oui,
période que l'écrit
qu'elle l'avait,
à certains
c'est
égards.
Ça, et qu'elle l'avait dans lui-même. La période précédente, finalement. Mais alors, c'est une parole qui va se modifier, parce que je crois surtout en raison des circonstances politiques. C'est une parole qui ne sera pas tout à fait semblable à la parole de l'époque républicaine. Elle sera généralement plus habile.
À cause du contrôle, à cause de la censure, la liberté est moindre.
À cause de la censure, à cause de l'autocensure. Plus habile, même chez les princes, ce qui est un comble. Nous l'avons vu avec Tibère. C'est une parole qui va donc faire appel, si vous voulez, aux amphibologies, aux litotes, aux réticences, aux prétéritions.
Toutes les habiletés ordinaires.
On n'a pas fait de statistiques, mais je pense qu'il y en avait en effet beaucoup plus à cette époque-là qu'à l'époque antérieure.
L'art, au fond, est de contrainte. On le sait parfois, la censure a l'avantage de multiplier les habiletés des procédés rhétoriques, comme vous venez de le dire.
Et puis, la rhétorique devient de plus en plus complexe. Parce qu'elle promettait la victoire, au fond, à celui qui la pratiquait.
Mais, sous l'Empire.
Comme se trouvaient généralement face à face des gens qui pratiquaient tous la rhétorique, il est évident qu'il fallait toujours chercher des arguments plus complexes, plus élaborés. L'enseignement de la rhétorique devient très sophistiqué à l'époque impériale.
Alors que l'écrit, nous dites-vous, l'emporte dans la vie publique, néanmoins la rhétorique, en dépit de la méfiance des princes, continue de se développer et même de devenir plus savante.
Oui, oui, oui. Les princes l'étudient d'ailleurs. Les princes font des discours et fort tôt, Néron par exemple a plaidé à l'âge de 12 ans.
J'ai déniché un document, Guéachard, qui vous amusera peut-être. C'est un concours d'éloquence qui remonte à 1952, à la radio, rendez-vous de 5 heures. Je crois que vous allez être surpris.
Je vous présente le premier concurrent qui est très méritant parce qu'il a le courage de se présenter devant le jury avec d'ailleurs beaucoup d'assurance, après ce que je vois. C'est Jean-Michel Froianelli, âgé de 12 ans. Et le voici.
Mesdames, messieurs, qu'est-ce que la bonne camaraderie ? Plusieurs définitions se présentent à mon esprit de collégien, je n'en retiendrai qu'une. La bonne camaraderie est une tournure d'esprit qui fait que tel enfant se plaît en compagnie d'autres du même âge. Cette qualité en exige une autre, celle d'être sociable. La sociabilité se manifeste non seulement dans les jeux, mais aussi en classe et dans les réunions d'enfants de tous ordres. De camarade à camarade, il s'établit facilement des relations franches qui permettent à chacun de faire appel à l'aide des autres. La bonne camaraderie demande qu'on ne soit pas jaloux de ses livres et de ses cahiers, qu'on sache donner à qui le demande le renseignement bibliographique utile ou la marche à suivre pour la solution d'un problème. Il n'est pas difficile de rendre ces petits services, mais il n'est peut-être pas aussi facile de faire accorder la collaboration et la concurrence, l'esprit d'équipe et l'esprit d'émulation. La disposition la plus essentielle à la bonne camaraderie, c'est l'esprit d'équipe. Quand on a l'esprit d'équipe, on préfère le travail et le jeu collectif au travail et au jeu individuel. On cherche avant tout l'intérêt et l'honneur de l'équipe avant son intérêt et son honneur personnel. Vous connaissez de ces joueurs de football ou de basket qui ont la manie de vouloir marquer les buts. Sans doute leur arrive-t-il parfois de l'atteindre, mais il est plus fréquent qu'ils le manquent et en définitive, leur vanité égoïste abaisse le score. Ces joueurs n'ont pas l'esprit d'équipe. Il n'en a pas davantage celui qui exige d'être demi-centre et se croirait déshonoré s'il était chargé de la défense du but. Quand on désire avant tout la victoire de l'équipe, on est assez indifférent au poste que l'on occupe dans la bataille. Par analogie, vous devinez comment se manifestera la bonne camaraderie, qui n'est autre que l'esprit d'équipe dans le travail scolaire. Dans la classe où il règne, les élèves aiment les tâches communes. Chacun fournit sa contribution suivant ses possibilités et ne cherchant que la réussite globale, il ne prétendra pas à briller au premier plan. Un travail d'équipe scolaire ressemble à une entreprise familiale. Elle est l'œuvre d'un groupe et chacun désire son succès comme le sien propre. Il y a un sentiment qui exclut la bonne camaraderie et qu'il faut éviter comme la peste. C'est la jalousie. Le jaloux est incapable de comprendre la bonne camaraderie. Lui ne se contente pas d'ambitionner les premières places et les brillants succès. Il souffre du bonheur et de la réussite des autres. Un premier de classe jaloux ne sera satisfait si son principal concurrent reste loin derrière lui. Le plus souvent, il est vrai, le jaloux est un médiocre qui, plus ou moins conscient de sa médiocrité, ne prétend pas ou ne prétend plus tenir la tête de la classe. Il n'en souffre pas moins comme si cette place lui était volée.
Nous savons, Guy Achard, par contexte, que ce petit garçon, qui avait donc 12 ans, récitait, il ne lisait pas un texte, c'est vraiment une permanence de la rhétorique. Il aurait aujourd'hui, si je calcule bien, 66 ans, il nous écoute peut-être. On a envie de savoir s'il est devenu avocat ou parlementaire. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une permanence de l'enseignement de la rhétorique qui éclate là, en 1952, de façon frappante, non ?
Oui, on dirait qu'il a eu comme maître un Quintilien. Moi, j'ai été très sensible à la façon dont il disait son texte. Bon, il est peut-être récité, mais ça ne fait pas scolaire, finalement.
Très bien dit, ce texte.
C'est très bien dit. Et puis, il y a une sorte d'adéquation entre la respiration et la longueur des phrases. Mais c'est un enseignement des rhéteurs, ça.
Et puis, il y a des procédés rhétoriques.
Des procédés, il y a l'analogie, une analogie contraire aussi. On prend un exemple opposé à celui, à l'attitude que l'on veut louer.
Oui,
il y a les anecdotes.
Quintilien, qui était grand professeur de rhétorique, aurait été fier de lui. Les anecdotes qui servent à illustrer le propos pour qu'il ne soit pas trop abstrait.
Oui, les anecdotes, les exemples.
On entend les gestes, on a l'impression de voir les attitudes des visages de ce petit garçon orateur en herbe.
Alors ça, c'était encore une partie de la rhétorique que nous avons laissée de côté. Mais il y a des chapitres entiers qui sont consacrés à la gestuelle de l'orateur. Alors évidemment, elle nous surprend un petit peu, hein, parce
l'action que oratoire. L'action oratoire.
Il faut se taper les cuisses à certains moments, il faut frapper du pied.
Ah non, bon.
C'est, j'allais dire, très méditerranéen. C'est même plus que méditerranéen. Mais enfin, il y a là toute une série de préceptes extrêmement intéressants, extrêmement utiles. Mais... Dans le livre sur l'orateur, Cicéron a des lignes merveilleuses sur le rôle du regard. Hein. Qui évidemment va être estompé par l'écriture.
Oui, il demande qu'il n'y ait pas trop de gestes du visage, mais que le regard joue un rôle central.
Le regard joue un grand rôle.
Ce petit garçon nous rappelle aussi qu'il y a eu des concours d'éloquence à Rome, nombreux. En voilà le dernier avatar. Mais...
Oui, oui, c'était souvent les empereurs qui les instituaient d'abord. Alors on se demande s'ils ne les instituaient pas surtout pour détecter des talents dangereux.
Ah, dangereux ?
Oui.
Bon, alors vous voulez dire que ce petit garçon aurait été jeté aux fauves ?
Eh oui, enfin, peut-être.
Je suis content pour lui qu'il soit né dans la modernité, dans notre modernité.
Oui, Caligula a fait en effet subir un mauvais sort à des lauréats, et on dit d'ailleurs qu'il a écarté Sénèque, c'est moins brutal, mais enfin... À Rome, c'était peut-être aussi rigoureux, de la scène politique, parce qu'il avait montré des talents d'orateur.
Il fallait balbutier pour survivre à cette époque-là. C'est vraiment paradoxal. On va s'en tenir là, Guy Achard. Je vous remercie de nous avoir conduits jusqu'à Rome pour réfléchir aux relations entre l'oralité et l'écrit. Votre livre sur quoi nous avons fondé cette conversation s'intitule « La communication à Rome ». Vous venez d'en publier une troisième édition, revue et corrigée, aux éditions des Belles Lettres. Génial aussi que vous avez rédigé de « Que sais-je, utile », l'un consacré à Néron et l'autre à la femme à Rome, la femme à Rome. Et puis, nous avons également utilisé un livre de Laurent Pernaud, paru en 2000, qui s'appelait « La rhétorique de l'Antiquité ». Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver toutes ces informations bibliographiques et quelques autres, avec les références des documents sonores qui ont été utilisés au cours de cette émission sur le site internet de France Culture, sur notre propre chapitre dans le site de France Culture. Samedi prochain, nous nous rapprocherons beaucoup d'aujourd'hui puisque nous parlerons du journal Libération, qui est soumis aux turbulences que vous savez. Nous parlerons de la naissance de Libération, en se demandant si c'était une naissance qu'on peut dire n'avoir pas été comme les autres naissances des quotidiens. Vous verrez. Et je recevrai pour en parler Laurent Martin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et avec Meryl Moneghetti, Jean-Michel Després et notre réalisateur Patrick Molinier. Pour les archivina, Florence D'Artois.